Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine ici, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, d'indépendantes, de freelance, de solopreneurs comme toi et comme moi qui nous rapportent dans nos conversations leurs conseils, leurs apprentissages, leurs leçons et leurs questions aussi parfois sur leur business et leur vie d'entrepreneur. Chaque épisode couvre une thématique spécifique, mais évidemment on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc installe-toi bien, prends de quoi noter et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une personne très spéciale avec qui on a passé une longue belle année à construire des choses ensemble pendant un accompagnement en coaching. Otalia, Noël, je suis ravi d'avoir cette discussion avec toi et j'avais hâte du jour où on enregistrerait cet épisode. Donc bienvenue sur le podcast.
Merci beaucoup, je suis ravie aussi.
Et une des raisons pour lesquelles je suis absolument ravi qu'on ait cette conversation, c'est que je trouve que tu incarnes une catégorie de personnes particulières qui vivent l'aventure freelance qui me touche beaucoup. Des personnes qui ont une énorme expertise et en même temps une très grande humilité, voire une trop grande humilité peut-être aussi, parce que il s'agit de valoriser cette expertise. Et du coup, c'est tout l'angle de la conversation que j'aimerais avec toi, c'est comment on fait pour valoriser mieux l'expertise réelle qu'on a. Mais avant qu'on arrive sur cette partie-là, comme je crois que tu sais, la première question qui t'attend, que je pose à tout le monde sur le podcast, c'est Otalia, comment, mais surtout pourquoi est-ce que tu es devenue indépendante?
La fameuse question. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que j'ai l'impression que c'est le freelance qui est venu me chercher. dans le sens où j'avais prévu voilà, de juste avoir le métier de mes rêves, de faire ce que j'avais envie de faire, et de manière traditionnelle, en étant salariée. Et finalement, quand il y a eu un moment dans ma vie où il a fallu que je recherche un nouveau boulot, que je cherche une nouvelle façon de faire mon travail. Finalement, les marques et les rencontres que j'ai pu faire ont été à l'origine de cette question qui eux-mêmes m'ont posée en disant et si tu étais en freelance, est-ce que ce serait pas la meilleure façon pour travailler ensemble et pour te confier des projets aussi.
Ok, donc c'est intervenu à un moment où, c'était ton premier, après ton premier CDI, deuxième, ça faisait combien de temps déjà que
après le troisième.
Troisième, ok. Donc troisième employeur, passage au c'est quatrième, ça. Et là on te propose, est-ce que tu serais pas à ton compte ?
Ouais.
Et question de pure curiosité, parce que je sais pas à quelle époque c'était, mais je pense qu'il y a tout un moment où certains employeurs voyaient ça comme plus avantageux pour eux de pas avoir les charges du salariat, etc. Absolument. Est-ce que tu penses que c'était un peu dans cette démarche de, bon, salarié déguisé, on va te mettre en freelance, ce sera plus avantageux, ou c'était un peu plus authentique que ça, peut-être? Je sais pas.
Je pense qu'il y avait, quand même un peu de pépite d'authenticité là-dedans, dans le sens où c'était un peu factuel en disant, on a des personnes créatives en interne. Maintenant, on a souvent des besoins, divers projets. Et par rapport à moi, ce que j'apportais, comme j'arrivais avec mon book, un peu tout ce que j'avais pu faire, là, ça faisait sens de se dire, vous pourriez nous apporter quelque chose un peu différent, même si on est structuré pour avoir, pour avoir ce qu'il faut en termes de créa. Mais voilà, ils l'amenaient plus de cette manière-là. Voilà.
Ouais. Parce que effectivement, pour les gens qui ne te connaissent pas, je l'ai pas forcément mentionné dès le début. D'ailleurs, je trouve ça bien de pas avoir direct dit Otalia, elle a tel métier, et ainsi de suite, parce que du coup, la curiosité est présente. Et du coup, Otalia est directrice artistique. Du coup, je sais pas si à l'époque même, à ce moment-là, au début de ton activité freelance, tu te positionnais déjà comme ça ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que tu fais, c'est apporter de la direction artistique dans le monde du luxe. Et du coup, je crois que c'était déjà le cas à l'époque, non?
Oui. Ouais, déjà, c'est vrai que mon expérience pro, elle a démarré dans le luxe, et j'étais tellement flattée d'accéder à des super belles marques, de travailler avec des créateurs de maisons prestigieuses, et c'est vrai que ça a commencé dans le luxe, et les marques qui me proposaient finalement d'être en freelance, de me permettre de travailler avec elles si j'avais ce statut. C'était aussi pour des marques de luxe, donc j'avais mon cœur qui vibrait fort.
Du coup, dis-moi si j'ai bien entendu, mais ce que j'entends, c'est que, donc on a un peu traité le comment, mais une des raisons pour lesquelles t'as accepté cette proposition, c'était aussi pour pouvoir travailler avec les marques qui te donnaient envie, plutôt que de te dire je vais aller chercher un autre employeur, mais t'avais envie de travailler avec ses clients, et si la forme était freelance, allons-y, c'est ça?
Exactement. En fait, la forme, après réflexion, je me suis dit, peu importe en fait quelle forme ça prend, l'essentiel c'est que moi c'est une passion et j'ai envie, et là en plus on me le propose, et ça faisait vraiment, il y avait plusieurs échos, j'ai entendu plusieurs fois en fait ce message, et je me suis dit voilà, il faut que c'est une opportunité pour moi, et voilà, il faut foncer quoi.
Ouais. Et effectivement, ça m'étonne pas tant, te connaissant, de se dire, parce que quelque chose qui caractérise Otalia, pour les gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas encore, c'est, t'as une fascination pour ton sujet, et t'as une fascination pour l'histoire et l'unicité des marques qui sont dans ce secteur du luxe. Et donc, ça m'étonne pas du tout que même à l'époque, en ayant différentes propositions de, travaillons ensemble, que t'aies déjà cette espèce d'étincelle de, travailler avec telle marque, l'historique, l'héritage.
Comme une enfant, quoi. Pour moi, c'est accéder à leur histoire, à leur héritage, découvrir aussi les coulisses de, comme on dit dans la mode, de certaines marques. Et oui, ça m'a toujours, j'ai toujours été flattée d'y avoir accès. Et c'était comme un peu des petits trésors hein, que je découvrais et que je pouvais voilà, conserver, prendre soin.
Mmh.
Et donc voilà, j'ai pas hésité.
Ouais.
J'ai pas hésité. Je me suis dit bon ben si c'est un statut et le statut de freelance, et ben c'est parti quoi.
Et du coup, si on accélère le temps, ça c'était il y a, je crois, une quinzaine d'années,
ouais.
Le début. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent, quand on parlait d'expertise, je pense qu'en 15 années à explorer un domaine, parce que bah voilà, cette fascination pour te connaître reste encore présente. 15 années de cette fascination pour l'histoire, l'héritage, le savoir-faire de l'industrie du luxe, bah, je pense que c'est naturel que ça crée une forme d'expertise, non?
Tout à fait. Parce que j'ai collectionné plein de trésors, comme une sorte de... Je vois ça un peu comme presque une boîte à outils, en fait. C'est les techniques, les couleurs, les matières. Et chaque expérience avec les marques, avec les clients, chaque découverte aussi. Tout ça fait que ça m'a permis d'explorer plein de choses et j'aime bien aussi combiner. Je crois que c'est ça aussi. Mon kiff, c'est de se dire comment je vais associer ou voir les choses autrement pour en faire... à nouveau quelque chose d'unique et encore plus voilà, ajusté pour la marque, encore plus pertinent.
C'est intéressant ça parce que tu vois, on parlait là de la durée, 15 ans, mais je pense que une des autres facettes qui accélère quelque part ce que tu me dis là, cette capacité à mélanger, à tirer un peu les apprentissages de plein d'endroits, c'est comme tu dis, le fait d'être indépendant, de travailler avec une multiplicité de clients et d'entreprise, et du coup, tu tires les leçons de ça, VS 15 ans de salariat dans la même entreprise, même si on développe une certaine expertise, c'est clair. Mais je pense que le fait d'avoir la multiplicité de missions, de clients, d'environnement, ben, ça accélère aussi le processus, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression que pour toi, ça a été le cas.
Ouais, exactement, parce qu'à chaque fois, il y a un regard différent, une approche différente, il y a des process aussi, mais toutes ces petites combinaisons créent quand même une nouveauté. Et à travers tout ce que j'ai pu voir, comprendre, et c'est vrai que d'agencer tout ça, c'est ça qui crée encore plus, j'ai l'impression, mon expertise et mon regard aussi plus spécifique, du coup, parce que nourri et enrichi de tout ce que j'ai pu découvrir et de tout. C'est sûr.
Ouais, parce que je me souviens, on avait. Pendant l'année qu'on a passé ensemble en coaching, je me souviens, on avait beaucoup exploré ce questionnement de c'est quoi l'assise sur laquelle tu te reposes pour faire ce que tu fais, enfin la recherche un peu du super pouvoir dont tu as hérité avec ces 15 années d'expertise. Tu dirais que c'est quoi tu vois, sur 15 ans, tu as accumulé plein de belles choses, plein de marqueurs, plein d'expériences. Tu dirais que c'est quoi les fondamentaux qui font qu'aujourd'hui, tu es capable de faire ce que tu fais? On a parlé là, par exemple, de la multiplication des expériences dans des entreprises différentes qui t'apportent des choses, mais du coup, concrètement, c'est
je
quoi
pense les... qu'il y a aussi, ça peut paraître basique, mais la curiosité et puis ce qui m'anime aussi profondément, c'est-à-dire me faire vraiment confiance et je sais que je reviens souvent à l'image de l'enfant, mais je suis comme une gamine quand je suis dans un atelier de confection, un atelier de fabrication, aller parler aux professionnels, en fait, qui ont une histoire, qui ont des gestes, qui ont un vécu, qui savent, avec une certaine matière, exactement comment la manipuler, en faire quelque chose. Ça, c'est... Et je le cache pas, et je pense que les clients, ils voient bien ma passion et mon regard enflammé quand on aborde ces sujets-là. Je me délecte, en fait, de leur histoire, leur expertise, et qui vient... naturellement enrichir la mienne. Mais je m'autorise aussi à être aussi fan de ça.
Ouais. Et c'est vrai que je pense, comme tu le dis très justement, ça se sent en face. Et tu vois, c'est tout bête, hein, mais on cherche à avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et donc, je pense que quand tes clients sont face à toi et qu'un des sujets sur lesquels vous allez travailler ensemble, c'est un nouveau packaging, une nouvelle manière d'habiller le produit, ce genre de choses, et que toi t'arrives avec cette fascination et
yeah.
Je suis un fabricant, ça marcherait trop bien, il faut que je vous le présente, nan, nan. Bah c'est communicatif en fait,
Et ça donne envie, plus que quelqu'un qui est très posé, sérieux, qui communique peut-être moins cette fascination.
Ouais. Et moi, déjà, c'est naturel pour moi, et c'est ce qui m'anime, donc autant le laisser transparaître. Mais je vois que ça va au-delà de simplement avoir une réponse visuelle pertinente. Au lieu de simplement proposer un design impactant, qui correspond bien aux valeurs de la marque, qui s'est appuyé sur l'ADN, sur les codes, c'est super. Mais j'aime bien aussi cette partie-là plus technique, qui me connecte à plein d'autres choses, et j'ai l'impression que c'est ce qui fait aussi que voilà, c'est ce qui fait mon unicité, et c'est ce qui fait que voilà, ça anime aussi le déroulé d'un projet, et forcément à terme le livrable, en fait.
Ouais, et je pense que c'est un truc que, pareil, je me souviens de nos conversations, que c'est quelque chose sur lequel beaucoup de fois, pendant tes 15 années d'expérience à enchaîner les différents clients dans cette industrie-là, sur lequel on t'a fait confiance, je me souviens de fois où tu me racontais que quand il y avait un projet urgent qu'il fallait finir avec l'ensemble du déroulé, de l'idée jusqu'à les finitions très minutieuses à la toute fin de « tiens, comment on fait dans le lieu de fabrication ?» Bah, toi, t'avais cette versatilité pour accompagner le projet du début à la fin. Et je ne pense pas, effectivement, comme tu le dis, que c'est le cas de tout créatif, tout directeur artistique, de suivre vraiment le déroulé du début à la fin. Il y en a qui vont peut-être être meilleurs au début du process, d'autres à la fin. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on a recherché ou valorisé chez toi dans tes missions clients.
Ouais, exactement.
Assez naturellement, ouais.
Et finalement, cette amplitude au sein du projet, j'adore, en fait. J'adore parce que c'est aussi l'histoire que je me raconte pour répondre le plus précisément au brief, aux besoins du client, mais d'aller plus loin même dans la construction du coup de ma proposition créative, je trouve que oui, forcément, ça lui apporte encore plus.
Ouais. Et ce que je retiens de ça, comme le sujet de notre conversation là, c'est essayer de réfléchir à trouver nos expertises pour les valoriser. Moi, ce que j'entends, c'est que toi, quelque chose qui te permet de te connecter à ce que tu apportes de mieux à tes clients, c'est suivre cette sorte de fascination enfantine dont tu parles et se dire, s'il y a ça, cette espèce d'énergie qui monte de joie, d'émerveillement, c'est qu'on va dans la bonne direction quelque part. Ouais. Plutôt que de se contraindre et se forcer à dire, on attend ça de moi, donc je vais faire comme ça. C'est ça que... Ouais.
Exactement. Et pas rester, en fait, j'allais dire la juste place, mais pas rester à ce qu'on attend finalement de moi. Et au final, oui, aller visiter des ateliers de fabrication, voir des fournisseurs, recevoir plein de matières. Moi, après, les DA, ils sont toujours fans des couleurs et tout ça, moi, je me délecte, quoi. J'y vais pleinement et je pense que ça fait la différence.
Et j'ai aussi souvenir d'un autre élément qu'on avait identifié en travaillant ensemble, qui fait partie de ton expertise, en tout cas de ce qui te différencie et te permet de faire du super bon travail pour tes clients. C'est ton contact avec les humains que tu as rencontrés au fur et à mesure. Je me souviens au tout début, quand on avait commencé notre accompagnement, tu me parlais de « j'ai bossé avec telle personne, telle direction créative, et ça m'a apporté plein de choses, puis une autre ». Enfin voilà, l'espèce d'accumulation de tes rencontres et relations professionnelles dans cette industrie, j'ai aussi l'impression que c'est quelque chose qui te permet de faire ton meilleur travail, quoi.
Exactement. Et ce que justement j'ai compris avec toi, c'est l'importance... parce que c'était tellement sincère pour moi et naturel, que, mais de le comprendre et de l'assimiler en disant « Ah, ok, donc en fait, au-delà de mon expertise, ce que je fais, ce que je peux proposer, la valeur que j'apporte, c'est ce lien que je tisse avec chaque personne, il est hyper, hyper important pour moi. C'est vrai que j'ai l'impression que ce qui me vient en tête, c'est de, en fait, la beauté de construire un projet créatif. Naturellement, il y a des liens forts qui se tissent. Et tout ce cheminement, en fait, quand j'embarque l'autre avec moi. Main dans la main, on construit les choses. J'apporte mon regard, j'apporte voilà tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime. C'est hyper important pour moi.
Ouais.
Ce que j'ai pu te raconter, c'est toutes ces personnes avec qui j'avais des liens hyper forts, même au fil des années, et qui étaient chères à mon cœur, j'allais dire. Mais oui, c'est vrai.
Bah oui. C'est ce que j'allais dire. J'ai l'impression que c'est aussi ça que les personnes qui notamment reviennent travailler avec toi à recherche, c'est que certes, le livrable, la finalité, ce qu'on crée ensemble, ça a son importance, mais j'ai l'impression que quelque chose que tu apportes beaucoup à tes clients aussi, c'est le chemin qu'on vit pour y arriver. Mmh. Et ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est hyper important à se souvenir. Je pense que quand on a une expertise particulière, on a tendance à surévaluer l'importance de la livraison finale et à sous-évaluer l'importance de comment on arrive à ce chemin-là. Et je pense que ramener un peu de... remettre de la valeur sur tout le processus, le lien qu'on tisse, la manière dont on vit le projet, et ça aussi, ça reste en tête, en fait. C'est presque même la chose, je pense, dont tes anciens clients se souviennent le plus et raison pour laquelle ils reviennent. Ah, c'est trop bien de travailler avec Otalia. Trouvons les conditions nécessaires pour retravailler avec Otalia. Oui. Presque on peut inventer des projets pour ça, en fait. Donc ouais, c'est hyper important, je trouve.
Ouais, c'est comme un bon souvenir, en fait, même de vacances. On n'a pas forcément en tête tout ce qu'on avait fait dans la journée, etc. Mais c'est cette sensation qu'on avait qui était trop cool. Ouais. On se sentait bien.
Du coup, là, on a touché à pas mal d'éléments qui composent ton expertise. Je vais essayer de les redire et voir si tu as envie de rajouter des choses, mais... On a parlé de ta fascination de base pour tes clients. Genre, il y a une forme d'amour de ces marques-là, elles m'inspirent, elles me fascinent. Ce qui déclenche la fascination pour l'œuvre même de ton métier, comme tu disais, avec le contact de la fabrication et les personnes qui touchent à la matière. Et ensuite, du coup, qui découle sur ta qualité technique pour accompagner le processus du début à la fin, donc ta méthode quelque part. Et à quel point c'est satisfaisant de te suivre dans ta méthode quand on est ton client. Et donc, les liens humains que tu utilises derrière. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres choses qui sont quelque part le fruit de tes 15 et plus années d'expertise dans ce secteur, qui sont ce que tes clients recherchent chez toi aujourd'hui, ou est-ce qu'on a, une bonne liste déjà?
Je pense qu'on a une bonne liste. Je pense que ce qui fait écho aussi à mes clients, c'est quand même le regard sur les besoins du luxe. Mmh. Sur qu'est-ce qu'ils attendent de moi et qu'est-ce que je vais comprendre pour les emmener là où ils veulent aller, quoi.
Ouais.
Je pense qu'il y a quand même une attente et le fait d'avoir travaillé avec différentes marques et dans le luxe, même si c'est pour des supports différents, le parfum, la cosmétique ou la mode, le textile. Mais le point commun, c'est de... Je pense qu'ils savent que j'aurai la bonne réponse, en fait. Quand même, la réponse la plus pertinente et ajustée par rapport à leurs enjeux, par rapport à...
Ouais. Mmh. T'as une connaissance du marché qui est tellement fine, en fait, que... assez intuitivement presque, t'arrives à la bonne réponse, en tout cas une réponse ajustée aux besoins, grâce à l'expertise, comme on disait tout à l'heure, effectivement, je pollinise dans plein de différentes entreprises et de plein de différentes approches, et donc ça se canalise dans ton approche finale, quoi. C'est ça?
Voire des fois, ça m'arrivait presque une situation inverse en me disant, oublie tout, tout ce que tu as en tête naturellement pour mener le projet, et si on n'avait aucune contrainte, contrainte ni de fabrication ni de délai aussi, hein, de lancement de produit, qu'est-ce qu'on ferait, quoi? Qu'est-ce qu'on ferait d'incroyable?
Ouais, et ça, je pense que c'est effectivement le cumul des expériences qui crée ça, et c'est souvent ce que je recommande qu'on fasse au début quand on se lance à notre compte, c'est une sorte de bilan de compétences pour identifier l'objectif c'est d'identifier nos compétences spécifiques qu'on met au service de répondre à une problématique spécifique. Et souvent, dans ce travail, on oublie ce que moi j'aime bien appeler les compétences passives, qui sont les compétences issues de nos expériences de vie. Tu vois, t'as les compétences hard skills, entre guillemets, très terre à terre, de tu sais utiliser Photoshop, tu sais comment ça se fabrique un flacon, et du coup, enfin voilà, t'as des compétences terre à terre, t'as une manière de l'accompagner, comment tu communiques, ta fascination, ton émerveillement, et il y a les compétences passives qui sont assez dures à définir, qui sont tout simplement, comme ça fait 15 années que je fais ça, c'est hyper naturel pour moi de presque sentir ce que c'est la bonne réponse. Et ça, c'est des compétences qu'on ignore, on laisse de côté souvent dans nos bilans de compétences, alors qu'elles ont beaucoup de valeur, je trouve.
Et comme tu le mentionnes, je pense que c'est complexe quand même à
mettre le doigt dessus.
Oui, exactement. à déterminer c'est quoi, en fait, qui peut faire la différence.
Ouais. Et je pense que c'est là où pas le faire seul, mais le faire avec d'autres personnes du milieu. Enfin, voilà, être entouré, peu importe la forme de l'entourage, ou en tout cas avoir une sorte de personne avec qui rebondir pour chercher et trouver ça, ça aide beaucoup. Et je pense que c'était tout le principe de notre accompagnement en coaching qu'on a vécu ensemble, et de la recherche de se dire comment je mets le doigt sur mon unicité, ce qui me caractérise, ce qui me différencie. Ce qu'on a un peu fait là en 20 minutes quelque part avec cette réflexion, et moi je dis voilà ce que j'entends, et tu me valides, ouais c'est vrai que ça apporte beaucoup.
Oui.
Pour ensuite se poser la question d'après, qu'on va sûrement approfondir là, c'est ok, maintenant qu'on comprend ces choses, comment on les valorise, comment on les montre pour faire en sorte que ce soit aussi reconnu par des inconnus qui ne me connaissent pas encore.
Et c'est vrai que la première étape, c'est vraiment décoder moi ce qui me paraît naturel, j'ai le regard de Thomas qui fait dire oui, mais voilà, c'est peut-être naturel pour toi, mais voilà, comment c'est apparu, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça dit de toi, et en prendre conscience, et puis du coup mieux se connaître pour mettre en avant aussi.
Ouais, et je pense le terme que tu utilises là, il est très important, de dire ce qui me paraît naturel. Parce qu'effectivement, je pense que ce qui se passe, c'est que on vit dans notre petit monde, on fait des choses souvent assez simplement, avec fluidité, et on se rend pas compte que pour d'autres êtres humains, souvent nos clients en face de nous, ce qu'on fait, c'est genre un super pouvoir, quoi. Et ils ne comprennent pas comment c'est possible que on fasse les choses avec autant de facilité, alors que pour eux, c'est genre un délire. Et du coup, comme nous, on est juste là dans notre petit monde, on se rend pas compte qu'en fait...
Ouais, en disant, si, pourtant, ouais. C'est naturel, exactement, c'est le bon terme.
Et je pense que c'est ça, du coup, la nuance de ce qu'il faut réussir à toucher, c'est qu'est-ce qui est naturel, facile, fluide pour moi, qui, en fait, aide énormément l'autre en face, parce que pour l'autre, c'est pas aussi naturel, simple, fluide.
Oui, parce que moi, j'ai mon esprit quand j'aborde un nouveau projet, où on parlait d'amplitude et d'avoir cette facette aussi sur les matières, la fabrication. Des fois, c'est parce que les marques attendent forcément de moi d'aller jusque-là. Mais en tout cas, de mieux me connaître, de savoir ce qui m'anime, naturellement, j'ai cette construction dans ma tête en me disant... Ok, mais si on va plus loin, moi je sais que ça, ce serait possible. Et du coup, ça va alimenter mes pistes créatives en me disant, c'est faisable, ça ne l'est pas. Ou alors, justement, je me challenge en me disant, comment je pourrais vraiment obtenir ce que j'ai en tête là ? Parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire.
Et ça, je pense que ça fait une vraie différence quand tu es face à un potentiel client. Comme tu dis... l'attente était peut-être pas à ce stade, mais le fait de voir que si on le souhaite, on peut aller à ce stade et voici dans quoi on peut se projeter ensemble, c'est enivrant quelque part pour une personne de se dire, oh waouh, je m'attendais pas à ce qu'on puisse réfléchir à aller aussi loin. Ok, il y a peut-être un truc là. VS des gens qui se maintiendraient à juste répondre simplement à la demande, il n'y a pas cette espèce de projection dans le futur.
Et comme il y a une part sincère, qui est naturel dans la manière de l'amener.
Ouais.
Il y a, je pense, quelque chose aussi de rassurant, dans le sens c'est vraiment au service de l'autre. De l'autre dans le lien qu'on est en train de créer pour le projet, et aussi pour le, voilà, pour la marque, dans le respect de la marque, en fait.
Ouais. Ouais. Et effectivement, et je pense que c'est effectivement une bonne manière de, enfin, une manière de s'en souvenir de ça pour les gens qui nous écoutent, c'est de se dire que pour servir l'engagement futur qu'on prend ensemble, quand on est avec un client, en gros, qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est construire une relation qui dure dans le temps et qui se projette dans le futur, autour de laquelle il y aura une transaction commerciale, on l'espère, pour signer une mission. Mais ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est imaginer ensemble un futur meilleur qu'un futur quand on est seul. Et c'est chouette d'aider la personne à se projeter. Mais c'est cette phrase que je dis parfois en formation, qui est de dire, quand on est en phase de proposition commerciale, ce qu'on doit montrer, c'est qu'on vient du futur et on sait déjà ce qui s'est passé. Donc on est en train de poser le cap de vers où on va, et qu'à chaque étape, voilà ce qui va se passer. Et ça rassure énormément, en fait. Et je pense que ta manière de faire, de manière très naturelle et fluide, de dire bah ok, bah voilà la réponse d'une piste créative comme vous avez demandé, et si on choisit celle-ci, ça pourrait ressembler à ça, on pourrait aller faire ça, on pourrait imaginer telle autre déclinaison dans le futur. Exactement. On voit ton là, en vidéo, on voit ton amusement qui s'embarque comme on disait au début. Mais ça rassure, quoi. La personne, elle se dit waouh. Et je pense que ça fait une bonne différence sur cette phase de bah, peut-être t'es en concurrence avec d'autres indépendants, peut-être avec des agences. Ça crée un lien plus profond que juste bah, je réponds à la proposition.
Exactement.
Du coup, pour revenir encore sur cette question, parce que du coup là, on notait que c'est pas facile d'identifier, mais quand on a identifié, tu vois, quand t'es toi, Otalia, face à « ok, waouh, 15 ans d'accumulation d'expérience », je touche à mon expertise et ce qui me différencie vraiment. Comment on fait pour le valoriser? Parce que c'est pas facile. Comme je disais tout à l'heure, tu fais partie des personnes que j'adore, qui ont une grande expertise et parfois trop d'humilité pour la valoriser. Comment on fait pour dépasser ce stade-là?
Ouais. Je tiens à l'humilité quand même.
Moi aussi, énormément, vraiment.
Donc, c'est une valeur importante. Comment faire pour le valoriser? Ben, je pense que c'était aussi c'est ce qui m'a guidée aussi vers toi, à travers le coaching, c'est-à-dire, ok, je sais un peu tout ce que j'ai fait, je sais ce qui me plaît, maintenant, qu'est-ce que j'en fais pour avancer encore, en fait? Est-ce que je dois présenter tout ce que j'ai fait? Et en l'occurrence, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Oui, 15 ans, c'est
comment
vrai.
Comment je le trie? Est-ce que j'ai envie de tout montrer? Est-ce que ça va être compliqué aussi de sélectionner ce que je mets en avant? J'ai l'impression que, je vais le dire là maintenant, avec ce que je vis maintenant avec mes clients, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise, en tout cas quand j'aborde un nouveau projet et que j'ai un nouveau client, de déjà, pas présenter, mais en tout cas au début de la relation, déjà apporter une vision de qui je suis et de comment je travaille. Et j'ai l'impression que c'est déjà un peu comme une entrée en matière, en faire de jeux de mots sur les... Une entrée en matière en disant, voilà, pour moi, ça, c'est important. Et ça leur donne aussi, je pense que ça leur donne déjà un avant-goût de, ok, elle sait de quoi elle parle, elle maîtrise son sujet, elle va nous guider et... voilà, on va commencer, mais déjà dans un, voilà, dans un, une base qui est déjà
ouais, posée,
ouais, directement, quoi. Objectif, ouais. C'est... Maintenant, je le fais plus naturellement, ouais. En fait.
Ouais, j'entends deux choses là-dedans. J'entends qu'il y a un point de posture où avoir identifié et fait ce travail de mettre le doigt sur qu'est-ce qui me caractérise, ça ouvre quelque part un espace où t'es plus à l'aise pour assumer ça dès le début d'une rencontre, et que la chose qui est permise par ce changement de posture, c'est du coup, bah, concrètement, tu assois plus, voilà qui je suis, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait, et voilà comment j'aime travailler pour avoir les meilleurs résultats possibles. C'est ça?
Exactement.
Ouais. Et je pense qu'effectivement, ça fait une grande différence de quelqu'un fait une proposition et il y a quelqu'un qui arrive en face avec une posture posée, je sais qui je suis et je sais ce que je fais. Bah, on a envie de faire confiance. OK. Prends les clés, Otalia, je te laisse conduire.
Oui. Laisse-nous nous embarquer.
Ouais.
Ouais. Hmm. Et oui, la posture, c'est. Ouh là là, c'est. C'est ce qui change tellement tout, en fait. Et c'est vrai que ce travail d'observer tout ce que j'ai pu faire, me rendre compte de. Ben voilà, de cette boîte à outils, de cette boîte à trésors, de me dire, OK, il y a tout ça. Qu'est-ce que j'en fais? Et après. Qu'est-ce que j'en fais et comment en fait je le présente, comment je le manifeste, qu'est-ce que ça change peut-être en moi dans ma manière d'avancer les choses et dans l'estime aussi de moi et de mon travail.
Ouais.
Ouais, tout à fait.
Ouais, je pense que et c'est hyper intéressant que tu me parles de ça parce que je pensais qu'on allait parler de choses beaucoup plus concrètes et terre à terre, mais qui viendront sûrement après. Mais j'entends que le premier point qui change dans mieux valoriser son expertise, c'est quand tu dis estime de soi, posture, c'est comment tu es en fait. Et je pense que ce qui se passe quand on fait ce travail de se connecter davantage à identifier son expertise concrète et son unicité, ça fait une sorte de déblocage identitaire de « Ah ouais, en fait, je suis ça. Je suis pas le petit freelance qui fait des trucs, enfin, je suis... Waouh, je suis ça. » Et que quelque part, tu vois, genre les épaules se mettent un peu en arrière, on se redresse et on a une assise qui change du coup ce qu'on fait et qui change du coup ce qu'on obtient, je pense. Et souvent, j'aime bien réfléchir à ces verbes dans ce sens. C'est être en premier, puis faire, puis du coup avoir une fois qu'on fait. Et c'est ça que j'ai l'impression d'entendre, que c'est vraiment la partie mon identité et donc ma manière d'être qui change en premier, quoi.
Exactement. Mais c'est comme là, je me surprends à parler de mon regard d'enfant sur l'univers et qui me plaît. Ça, je pense que vraiment, c'est le travail aussi de la posture. C'est-à-dire, tel que je suis, je me permets d'évoquer que je suis comme une gamine et que et ça me fait rêver et que je vois plein de belles choses et que. Et voilà, et c'est beau, c'est fort, et voilà, ça m'apporte plein de choses.
Alors que, ouais, on pourrait...
D'être, comme tu disais, ouais.
Ouais, j'allais dire, tu pourrais très bien ne pas t'autoriser à utiliser ces mots et à en parler comme ça devant un client, parce qu'il faut être sérieux, alors que ne pas le faire, ça...
Donc en fait, je suis...
mais
c'est vrai de poser les mots et de... Ouais, de... quelque part aussi d'assumer que ça c'est peut-être une particularité chez moi, mais c'est ce qui m'anime, mais c'est tellement sincère, donc
ouais. Et je trouve ça hyper important qu'on traite de ça, du coup, parce que bon, globalement c'est toujours le cas, mais je pense qu'il y a un biais dans l'écosystème entrepreneurial du coaching, l'accompagnement business machin, il y a un biais qui va toujours vers les actions, le fait de il faut faire plus de trucs machin, etc. Alors que je pense que vraiment, les grands basculements, ils sont à cet endroit-là. Ils sont dans ma posture, mon incarnation, l'être, quoi. L'être et la notion d'identité de soi. Et que vraiment, c'est ça qui fait vraiment bouger les lignes de manière durable.
Oui, souvent, tu parles de bien se connaître, en fait, aussi à travers le chemin du freelancing Ouais, tout ce que tu dis, c'est tellement, tellement important. Bon, en tout cas, c'est vraiment ce que j'avais besoin pour continuer d'avancer, de grandir, et en même temps d'être juste bien en me disant oui, ok, ça me fait kiffer, j'aime bien, j'aime bien aussi le pouvoir le partager, c'est-à-dire partager ma joie de découvrir quelque chose. Et j'ai l'impression aussi que de l'exprimer et d'être bien avec ça, avec cet état de joie, ça crée des liens aussi plus forts, fatalement, je pense, avec les clients ou les personnes.
Ouais. Parce que
je côtoie, donc naturellement, quoi.
Ouais, quand tu dis ça, je pense que ce qui transparaît pour moi, c'est quand on se rencontre vraiment en étant aligné avec soi-même et quand l'autre est aligné avec soi-même, c'est là où les rencontres ont plus de poids et où les relations, qu'elles soient professionnelles ou autres, mais ici on parle professionnelles, peuvent vraiment plonger dans tout ce qu'elles peuvent être. Parce qu'on part d'un endroit où je suis pleinement là en étant moi et avec tous les plus beaux cadeaux que j'ai à offrir. Et je pense que ouais, quand on s'autorise à vraiment ouvrir, et c'est pas facile, mais quand on arrive à faire ce chemin-là, notamment en revisitant notre autobiographie, comme ce qu'on a fait avec tes 15 années d'expérience, ben c'est ça qui ouvre les vannes sur ça aussi, quoi. Du coup, Otalia, tu dirais que quand on a ce truc-là de être, quand tu réussis à faire ce basculement de posture de « Ok, j'ai mon expertise, je suis l'accumulation de toutes ces expériences et je suis capable de produire ces choses-là », ce que j'entends, c'est qu'une des premières choses qui te permet de le montrer à l'extérieur, c'est de mieux assumer les conditions idéales pour travailler avec toi et de les poser directement sur la table dès le début. Est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose qui te permette de valoriser cette expertise à l'extérieur auprès d'inconnus ou gens que tu rencontres pour la première fois?
Bah, tout simplement, être visible aussi, hein. C'est une question qu'on a pu aussi voir ensemble. C'est je peux parler ou évoquer plein de choses et j'ai plein de souvenirs dans ma tête rattachés à des projets ou à des découvertes, des techniques, etc. Mais montrer un peu, montrer les projets, hein. C'est basique, mais oui. C'est important, je pense.
Ouais.
Surtout pour des personnes qui ne me connaîtraient pas, des personnes qui découvrent un peu l'univers, c'est voilà, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est capable de produire, un peu aussi peut-être découvrir une manière de découvrir mon cheminement d'idées, comment je mène le projet, dont on parlait un peu de ces étapes-là. Ouais. Ouais. Je pense que présenter son travail, c'est...
Ouais, c'est... Et comme tu dis, c'est en même temps basique et en même temps, parce que, enfin, basique dans le sens où, bah, évidemment, faut montrer son travail.
Oui.
Et en même temps, je pense que c'est clairement quelque chose où, bah, on se fait aspirer par la vie, en fait. Et on se fait aspirer par, bah, il y a un projet qui commence, qui se termine, on en a un autre qui commence et se termine. Oui. Et au bout d'un moment, ça fait 10 ans et j'ai jamais fait une seule étude de cas pour montrer ce que je fais. Donc oui, c'est basique et en même temps. Ben, je sais qu'on parle en connaissance de cause ici. Et en même temps, bah voilà, faut prendre l'espace, faut déclencher le fait de se poser, de documenter ce qu'on a fait, de réassembler et représenter les choses de différentes manières. Et après, même en faisant ça, il y a montrer son travail et montrer son travail. Et ouais. On peut tout autant juste mettre une image en mode voilà, j'ai fait ça. Et comme tu disais, documenter mon processus, embarquer l'autre dans notre univers, qui est le mot que tu as utilisé, et dans notre processus, qui est un autre mot que tu as utilisé, bah, montrer l'envers du décor, en fait. Voilà, je suis Otalia, si tu t'engages avec moi, on peut vivre un voyage qui ressemble à celui-là. Voilà d'autres personnes avec qui je l'ai vécu.
Exactement. Ouais.
Comment tu dirais que... Enfin, c'est quoi pour toi les bonnes... Les choses qui, toi, personnellement, t'aident à valoriser ton expertise quand tu parles ou que tu montres ton travail. On avait travaillé en coaching sur des études de cas, mais j'imagine qu'il y a des choses particulières qui, toi, font la différence pour toi quand t'en parles.
J'ai l'impression que ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir un exemple, alors là c'est du coup les années qui parlent, mais d'avoir un exemple hyper ciblé sur une situation similaire. un client veut développer un design, on a des contraintes techniques et c'est là où l'expertise parle, c'est-à-dire je me dis ah oui, c'est vrai que j'ai déjà rencontré ce type de situation ou en tout cas quelque chose de similaire. Voilà comment on a pu contourner le problème ou en tout cas trouver une nouvelle idée ou avoir un angle d'approche complètement différent. Et je pense que oui, c'est bah je reviens à la boîte à outils, c'est quelque chose que voilà que je vais piocher dans ce que j'ai conservé en me disant là je pense que c'est pertinent, ça va les aider forcément. Je vais prendre cet élément et même moi en fait parce que finalement on est à deux à essayer dans le duo de création à essayer de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour mener à bien donc
OK.
Avoir ce presque un peu les l'expertise en sous forme de feedback en disant voilà j'ai déjà vu ça je vous apporte mon regard sur une situation que quelqu'un a déjà traversée.
Ouais. Et je pense que ça touche à l'importance justement de documenter ce que tu dis là, c'est que pour réussir à avoir la clarté de dire ben, face à telle situation, j'ai une expérience dans mon passé que je peux piocher pour montrer que je l'ai déjà vécu et que je sais comment le dépasser et valoriser comment on l'a fait par le passé. Bah si t'as pas documenté au fur et à mesure, bah on oublie. Enfin, ouais, faut avoir accès à ça en fait. Et comme tu dis, j'aime bien ta métaphore de la petite boîte au trésor, parce que effectivement, quand tu prends le temps de transformer les choses en des petits objets de trésor à ranger dans la boîte, bah, tu peux ensuite aller piocher dedans. Alors que quand on prend pas le temps de documenter, de redire ah oui tiens là j'ai appris telle chose, de le garder, forcément c'est quelque part dans notre tête. Mais c'est plus difficile d'y avoir accès moment où on en a besoin.
Exactement.
Ah, c'est hyper intéressant. Et je pense que ce qui se déclenche quand tu fais ça, c'est que ça crée directement un lien de confiance, en fait. Si t'es face à quelqu'un qui vit une situation et que t'es capable de lui montrer que tu l'as déjà vécu par ailleurs avec quelqu'un d'autre et que tu peux montrer ce qui s'est passé, bah, tout de suite, s'il y a une sorte de chose qui se détend en mode, OK, c'est bon, je suis entre de bonnes mains. Ce qui est un peu ce que tu décrivais tout à l'heure aussi, je sais que je peux me faire confiance et suivre la voie, quelqu'un va s'occuper de m'aider à traverser ça, et je pense que c'est ça qu'on apporte à nos clients, c'est qu'ils puissent se détendre et suivre une méthode dans laquelle ils ont confiance face à un sujet où eux ne savent plus trop comment s'y prendre, pas trop comment avancer, quoi.
Ouais, et puis la sensation, tu vois, d'être toujours guidé, en fait, de se dire oula, ben, ça... Peut-être que ça chahute un petit peu, on se pose trop de questions, on se dit est-ce que le timing est serré, il faut trouver une solution, mince, ça n'a, je sais pas, la technique n'a pas tenu, au final, la formulation ne, par rapport au produit, enfin voilà, il y a un mix qui fait qu'on repense les choses et on doit trouver vite une solution et le fait d'avoir, d'être clair aussi sur tout ce qu'on peut apporter et de ouais proposer la bonne idée, ouais je pense que le client il se sent vraiment guidé et même si à un moment donné c'est un peu ombragé pour la suite du projet, on se dit non mais ça va le faire quand même, ça va le faire parce que on sait qu'on est sur les rails et on va y arriver quoi.
Ouais, et c'est vrai qu'une fois que t'as créé pour la première fois cet environnement de confiance, ça change l'interprétation qu'il peut y avoir sur tout autre événement qui se passe par la suite. Parce que du coup, c'est plus « Ah, il y a un problème, c'est de la faute d'eux », c'est « Ah, il y a un problème, trouvons une solution ». Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de avoir peaufiné et développé sa manière de parler, de poser le cadre dès le début. C'est que « Ok, je sais qu'on peut faire confiance, je lâche et je suis plus en tension de vérifier. » Là où, s'il n'y a pas ce cadre de confiance au début, si jamais il y a un problème à un moment, peut-être qu'on se retourne contre toi plutôt que de se retourner ensemble vers le problème. Et ça, je trouve que c'est un vrai enjeu de réussir à créer ce cadre de sécurité dans nos missions avec nos clients.
Alors pareil, hein, j'allais dire c'est un peu naturel, mais oui, c'est pas conscient. Je me dis pas, je vais vous guider. Venez, tout se passera super bien et j'aurai trois propositions, peu importe le budget, les contraintes techniques et les mauvaises surprises. Mais
ouais, mais je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de tu les fais se projeter si loin que du coup ça crée naturellement ce truc de bah si Otalia est capable, quand elle nous présente ce qu'on peut faire, de se projeter aussi loin, bah on sait que bah même s'il y a un peu ouais de l'ombre ou une route plus chaotique à un moment donné, on saura les dépasser parce qu'on sait où on va, quoi.
Ça arrive aussi qu'on puisse me dire oula, mais enfin, on va pas, on n'avait pas pensé à aller aussi loin.
Ouais.
Et c'est OK. Et je leur dis oui, oui. Je dis, on va suivre ce qui est prévu. C'est juste que moi, naturellement, l'histoire que je me raconte et la logique des choses fait que je suis obligée de m'embarquer, d'embarquer tout le monde assez loin.
Ouais. Oui, effectivement, c'est, on n'est pas obligé de, ça permet de se projeter et créer la confiance, mais l'objectif, c'est pas qu'on fasse tout, l'objectif, c'est juste se projeter. Ouais.
Et donc après, c'est, ah ok, bon bah, let's go.
Du coup, si je reprends ce qu'on se dit pour l'instant sur comment on valorise mieux son expertise, on a parlé de la posture, on a parlé de poser le cadre idéal dès le début de, tu sais comment tu fonctionnes, donc tu l'assumes plus, et ça permet aux gens d'avoir davantage confiance. Aller piocher dans toutes tes expertises pour bien montrer ton travail et rendre visible tout ce que tu as fait par le passé. Et ça, tu peux le faire, j'imagine, autant pendant un rendez-vous avec une personne que sur, de manière générale, sur un site, enfin voilà, sur d'autres, d'autres supports. Est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose qu'aujourd'hui tu as en place qui te permet d'assumer, valoriser toute ton expertise sur ton sujet et de le faire rayonner à l'extérieur?
C'est vrai que moi, de par ce qui m'anime, j'aime beaucoup faire des salons pro. Du coup, hyper ciblés dans le packaging, pour les marques de luxe, etc. Et je sais pas si c'est, j'allais dire si c'est pas que je m'entraîne, mais le fait d'être au contact des gens et de nourrir ce qui m'attire et ce qui me plaît, et puis découvrir les innovations, les enjeux aussi stratégiques du moment dans ce marché, ça, je pense que c'est une bonne manière de toujours progresser et du coup d'enrichir aussi mon expertise, en fait, d'être au fait des nouveautés, et d'échanger avec les experts, quoi, du milieu.
Ouais, et ça, je pense, c'est un truc qui te caractérise vachement, qu'on avait identifié aussi en coaching, ce côté réseau. Tisser et garder des liens sur le long terme avec des personnes. Et du coup, ouais, j'entends dans ce que tu dis par rapport au salon qu'il y a la partie rester à la pointe de mon expertise, donc savoir, ah tiens, il y a un nouveau procédé qui nous permet de faire X, que peut-être tes clients sont même pas au courant que ça existe, parce que peut-être qu'ils ont pas les mêmes pratiques de veille que toi. Mais surtout que c'est la manière pour toi d'avoir des liens avec des acteurs divers et variés dans l'industrie, et que ça aussi, c'est quelque chose qui te permet de faire valoir ton expertise. Et je sais que les gens avec qui tu as travaillé par le passé restent des personnes très importantes pour toi. Et que, tu vois, tu parlais de visibilité tout à l'heure, la manière dont toi tu te rends visible, c'est pas plein de followers sur les réseaux, un gros compte Instagram ou un site qui fait plein de vues, mais c'est plus, j'ai un groupe de personnes avec qui j'entretiens des liens super forts et super réguliers, qui m'attirent régulièrement des opportunités, et qu'on va même chercher des opportunités ensemble. Et c'est sur ça que ta visibilité repose davantage que, enfin voilà, t'es pas une star Insta, LinkedIn, quoi. T'es une star dans ton petit réseau, qui t'apporte tout. Et ça, je trouve, c'est chouette d'en parler aussi là, parce que ces gens-là te connaissent tellement bien qu'ils sont super capables de valoriser ton expertise comme toi auprès d'autres, et ensuite ensemble on fait des belles choses, et qu'on n'est pas obligé d'avoir un super énorme compte Insta, TikTok, enfin le réseau, ça fait peuvent faire tout, quoi.
Oui, et c'est vrai que c'était ça moi aussi la nuance qu'il fallait que j'intègre, c'est de me dire on dit que c'est bien d'être visible, de montrer, et je me suis dit, j'ai quelques lacunes au fil des années. mais finalement, oui, ouais, les salons, les rencontres, entretenir le réseau, garder des liens qui me sont chers, donc forcément j'ai cette attitude à en prendre soin, en fait.
Oui, parce que le cœur y est, c'est pas juste stratégique, quoi.
Ouais, non, vraiment. Je revois les personnes, je me dis, oh, c'est trop bien. C'est trop bien parce que j'ai de bons souvenirs d'avoir travaillé avec cette personne, parce que il y a aussi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi un quotidien qui se tisse, en fait, d'être sur un projet. On échange plein de choses, donc voilà. Et ça, j'affectionne tout particulièrement, en fait, ce qui se met en place aussi dans le déroulé du projet. Donc,
ouais.
Donc effectivement, pour revenir à la visibilité, d'être visible sur les salons, d'être visible avec les interlocuteurs qui du coup, commencent à détecter que, voilà, j'aime bien les matières, que je serais ravie de discuter avec eux là-dessus, et que c'est sincère, en fait, parce que finalement, une nouvelle technologie, comme tu dis, ça se trouve, les clients, ils ont... ça va pas répondre à leurs besoins du moment, ou c'est pas leur priorité actuellement, mais juste parce que moi, ça m'anime, ben, ça crée aussi que, voilà, ça fait le fait que je sois présente et que j'alimente ma petite boîte.
Ouais. Et je pense que l'effet que ça a, c'est que effectivement, et on le voit dans la manière dont tu te développes, c'est que tu deviens la personne dont le nom est passé sur un petit papier de personne en personne dans l'industrie en mode parle à Otalia. C'est exactement la bonne personne pour toi. Et c'est tout ce que je souhaite à toutes les personnes qui nous écoutent de développer ça, c'est que voilà, t'es pas une superstar des réseaux, mais t'es une experte dont on passe le nom pour un sujet particulier et accompagner des problématiques particulières dans ton industrie de cœur. Et enfin voilà, c'est un objectif en or, quoi, d'avoir ça.
Ça me plaît bien, ce petit bout de papier.
Ouais, hein.
Ouais.
C'est une belle image, je trouve. Otalia Noël parle à cette personne, tiens. On va arriver sur les petites questions rituelles de fin de podcast, Otalia. Est-ce que tu es prête?
D'accord. Écoute, oui.
Je pense que tu en connais quelques-unes. J'en ai rajouté une ou deux récemment. Mais la première, c'est... On retourne 15 ans en arrière. Tu es face à Otalia. C'est son premier jour en tant qu'indépendante. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire?
Ouais, c'est loin.
On en a vécu des choses depuis, hein.
Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire à la Otalia qui débute, premier jour de freelance? C'est de me replonger dans mes souvenirs.
Prends ton temps.
C'est une question que je dois lui poser?
Tu lui dis tout ce que tu veux.
Ah, tout ce que tu veux.
T'es entièrement libre. C'est voilà, t'as un moment privilégié avec toi du passé. Qu'est-ce que tu partages?
Je pense que je lui demanderais d'identifier, d'essayer de sonder quelle est son étincelle de départ, en fait. Quel est son moteur pour avancer. Parce qu'au fil des années, quand on l'a identifié, on peut vraiment, voilà, s'y raccrocher, se reconnecter à ça. Et sur la durée, je pense que c'est hyper, hyper important. Je ne l'avais pas forcément en tête, hein, puisque c'était venu à moi et je me suis dit, youhou!
Ouais, tu t'es lancé par opportunité, donc il n'y a pas un truc qui t'a poussé.
S'il faut ce statut pour pouvoir faire l'activité de mes rêves, et ben, soit, allons-y.
Ouais.
Ouais. Donc, quel est l'étincelle de départ? Pourquoi? Le fameux pourquoi?
Le fameux. On y revient. Ok, trop bien. Chouette réponse. La seconde question de ce petit rituel, c'est, à ton sens, pendant tes 15 années d'indépendance, c'est quoi la plus grosse difficulté que t'es traversée et comment t'as fait pour la surmonter?
Wow. Je crois que ma plus grosse difficulté, c'est de ne pas être pétrifiée par par l'avenir, en fait. D'avoir un peu de lâcher prise, un peu de confiance et quelques petits soupçons de sérénité en me disant poursuis ton activité, oui, tu auras encore des clients, oui, certes, ils ont fait appel à toi une fois, mais peut-être qu'ils te rappelleront une deuxième fois. Ça, je pense que ça a été le plus complexe. Je dis pas que j'ai réussi à trouver les parfums ingrédients pour pas que ça me fasse aussi peur. Mais en tout cas, je note, voilà, l'évolution. Je note toutes ces années, quand même, d'activité qui se sont ajoutées. Je me dis, oh, quand même. Voilà, j'en suis
là. On n'a pas disparu encore, on est encore là, 15 ans plus tard.
Et finalement, est-ce que des clients ont rappelé oui ? Est-ce qu'il y en a eu des nouveaux ? Ah oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y en a encore des nouveaux ? Insoupçonnés, je me dis, oh, très bien, ok.
Ouais.
C'est vraiment un apprentissage, j'ai l'impression qu'il sera peut-être constant, d'ailleurs.
Bah, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre, mais ce que j'entends, et je pense que c'est le cas de beaucoup, c'est que il y a toujours cette partie de toi qui est en mode, est-ce que demain c'est le jour où tout s'écroule? Ouais. Et que ce qui t'aide à faire face à ça, c'est se rappeler et se remémorer les faits. Ok, ça fait 15 ans. Il y a des gens qui ont kiffé bosser avec moi, qui m'ont rappelé. Et revenir dans le factuel, ça aide à taire, peut-être pas taire du coup, mais faire que cette petite voix est un peu moins forte, quoi.
Et puis se connecter à ce qui m'anime vraiment, parce que ça permet, j'ai l'impression, un certain lâcher prise en fait aussi. Donc de plus apprécier pleinement le projet, pleinement le cheminement, les étapes, plutôt que d'être déjà focalisé sur la suite et sur l'après.
Ouais.
Ça c'est ce qui m'aide bien là.
Trop bien, cool, merci pour cette réponse. Suivante question, c'est en ce moment, c'est quoi ton objectif dans ton activité ? C'est quoi l'objectif du moment pour Talia dans sa boîte ?
J'aimerais encore grandir. Je parle de l'enfant, tu vois, de Talia. J'aimerais encore grandir. Et j'ai l'impression que j'ai un objectif de structure. Une structuration, quoi. De me dire qu'est-ce qui est important, comment je me développe, mais est-ce que ça veut dire forcément voilà, tout ce qui est lié au temps que je délivre, comment je fais pour trouver un équilibre et continuer à répondre aux marques, continuer à faire tout ce que j'aime, voilà, un besoin de structure.
Ok. Et la question subsidiaire de celle-là, c'est ton objectif, c'est davantage de structure pour grandir, en tout cas suivre une voie de développement que tu identifieras. Qu'est-ce que tu cherches vraiment derrière cet objectif ? Le sens de cette question, c'est de se dire que voilà, on a des stratégies, des objectifs qu'on se fixe, mais il y a des trucs plus profonds qu'on cherche à avoir grâce à ça. Et je suis curieux de ce que c'est pour toi dans ce cas. Si tu sais, d'ailleurs.
Ouais. Bah, j'ai quelque chose qui vient en tête, alors je vais être hyper transparente et sincère avec toi, comme toujours. C'est, en fait, je crois que j'ai envie d'explorer, quoi. J'ai envie de jouer avec tous les trésors que j'ai accumulés et de kiffer faire pour moi des choses, faire mes designs, faire ce que j'ai dans la tête, toutes ces idées, les dessiner, les modeler, les mixer des choses, mais sans attente particulière, quoi. Être vraiment dans le, et du coup la structuration pourrait me permettre d'avoir cet espace.
Trop bien.
Pour m'amuser.
J'adore, trop.
Au-delà de m'amuser avec les marques.
Ouais, ouais, grave. Grave. J'adore cette réponse parce que je pense que c'est quelque chose qui est vachement libérateur quand on accède à ça dans notre relation avec notre entreprise. C'est quand ça redevient un jeu, quand ça redevient une exploration de oh, je pourrais essayer ça et ça. Et comme tu dis, j'ai l'impression que c'est un peu un fil rouge, cette joie enfantine. De faire, de tester, de, enfin voilà. Et j'ai l'impression que quand ça, ça fait partie de notre relation à notre entreprise, on s'autorise plus, on expérimente, on joue et on a, comme par magie, des résultats plus satisfaisants, je crois aussi. Ouais. Donc, merci pour cette réponse. J'adore. Et on a une toute dernière question. Enfin, j'ai une toute dernière question à te poser, mais c'est plutôt toi qui vas la poser. Parce que la dernière question de ce podcast, c'est: quelle question, Otalia, tu veux poser aux gens qui nous écoutent suite à notre conversation pour que chacun, chacune continue de cheminer dans les jours et les semaines qui suivent? Si tu as une question à leur poser.
La question du podcast.
Quelle est la question?
Le plus les aider. Pareil, petit temps de
prends
réflexion.
Le temps. Ça fait une heure qu'on est là, on n'est pas pressé.
Ouais, non. On a pris notre temps. Peut-être pour reprendre l'idée de progression et de tout ce qu'on a évoqué, qu'est-ce qui te ferait encore plus progresser pour avoir quelque chose, pour offrir quelque chose encore plus unique? En fait, dans ce que j'ai essayé un peu de dire avec toi, c'est mon amour des matières, du textile qui vient de mon école d'art, de mes premières expériences dans la mode et dans la haute couture. C'est tout ça, en fait, est resté et ça m'a guidée après vers le papier, vers d'autres techniques. Et voilà, qu'est-ce qui peut paraître naturel, mais qu'on peut enrichir et qui va faire que ça va apporter encore plus de valeur, en fait, dans ce qu'on délivre. Et renforcer, du coup, son expertise naturellement.
Ouais. Ouais, donc c'est... En gros, c'est quoi la prochaine étape logique du chemin pour toi qui te permet de construire quelque chose d'encore plus unique dans ce que tu délivres au client, si je comprends bien, c'est ça? Trop bien.
Exactement.
Très chouette question, j'adore. Et effectivement, sortir des sentiers battus, je pense, c'est une bonne réflexion à avoir sur face à cette question, pour faire des choses qui détonnent et diffèrent.
Être soi.
Être soi. Formidable. Merci beaucoup, Otalia, pour tout ce que tu nous as partagé pendant cet épisode. S'il y a des personnes qui veulent répondre à cette question ou tout simplement venir échanger avec toi, c'est à quel endroit que c'est le bon endroit de venir discuter avec toi? Je les envoie où?
Comme j'ai une super visibilité. je suis présente sur LinkedIn, sur Instagram, donc Otalia Noël pour les deux. Et j'ai aussi les prémices d'un site. Donc autant le dire ici, donc c'est otalianoel.com.
Trop bien.
Voilà, pour voir un petit peu justement mon univers. Et...
Formidable. Eh bien, je mettrai tous les liens dans la description et sur la page du podcast sur le site. Merci Otalia et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu, t'a inspiré, t'a apporté des clés. Bref, t'as donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale, et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode. Je le répète, on sort un épisode toutes les semaines, et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques, donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast, et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir, et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience. C'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres. Sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.